Des vies françaises à présent. Cette semaine, rencontre avec Yann Dogbo. Il est issu des quartiers populaires. Il est aussi étudiant à la Sorbonne. Il est aussi champion de foot. Il est aussi producteur de séries web documentaires. Et tout cela en étant totalement non-voyant.
Il ne faut pas utiliser une exception pour faire culpabiliser une masse. Il faut au contraire s'interroger davantage sur comment on organise une société pour que cette personne-là ne soit plus une exception.
L'histoire de Yann. Faire tomber les barrières.
Toute personne a son potentiel et c'est à la société d'être le tailleur de diamants finalement.
Bonjour.
Bonjour, enchanté. Donc installez-vous.
Donc c'est drôlement chic les résidences étudiants. Ouais. Il y a des grandes fenêtres, il y a beaucoup de lumière.
On a de la chance, on a beaucoup de chance.
Vous savez combien de temps que vous habitez ici ?
Ça va faire 3 ans. Quand je suis rentré à l'université, la première année, du coup, j'habitais dans le 93, ça faisait quand même pas mal de temps pour aller jusqu'à la Sorbonne, donc j'ai demandé un logement et j'ai réussi à l'avoir.
Là, ici, on est dans limite 15e, 6e.
Voilà, 15e, 6e arrondissement. Il y a tout un ensemble de cadres que tous les jours, quand je me réveille, je me dis quelle chance.
C'est l'église Notre-Dame des Champs, c'est ça ?
Exactement, c'est ça.
Alors dites-moi, vous êtes né où et quand déjà pour
Moi, je suis né en Côte d'Ivoire en 1997. Ma mère est commerçante et mon père travaille en tant que fonctionnaire à la mairie d'Abidjan. Ce qui s'est passé, c'est que donc au bout de quelques mois, on m'a détecté un glaucome, c'est-à-dire que j'étais malvoyant. Donc du coup, ce glaucome devait être traité. Le glaucome, c'est une maladie que lorsqu'on la traite, la vue ne baisse pas. Sauf que pour pouvoir être traité, il fallait absolument que je vienne en France. Ma mère faisait des allers-retours, mais était davantage en Côte d'Ivoire.
Vous avez grandi avec qui ?
Moi, avec. Il y a eu des petites situations particulières, des moments des familles d'accueil, des moments chez ma tante, des moments avec mon frère. Un parcours de domicile un peu décousu, je dirais. Et à l'âge de 12 ans, j'ai perdu totalement la vision suite à une opération. Le médecin m'avait dit que j'étais sorti de la convalescence et j'étais en vacances du coup à ce moment-là en Côte d'Ivoire et je me suis cogné. Et donc du coup, à partir de ce choc-là, j'ai perdu la vue de façon instantanée. Je suis venu en France en urgence 2 jours après, mais c'était déjà compliqué.
Et c'est de là que vous avez complètement perdu.
J'ai complètement perdu la vue.
Comment vous avez réagi, vous, à 12 ans, quand vous avez appris que vous ne verrez plus ?
Par l'humour, par le fait de ne pas y penser, par le fait de ne pas l'intellectualiser, en fait. C'est-à-dire que si on se dit, là, c'est fini, je pense qu'on est véritablement fini. C'est-à-dire que enchaîner, être actif, partir, faire des choses, c'est à ce moment-là, en tout cas, la façon dont j'ai géré cette chose-là, c'est-à-dire que j'y ai pas pensé avant 2-3 ans plus tard. Il n'y a que 2-3 ans plus tard que je me suis dit... Ah, en réalité, j'ai perdu la vue. Sur le coup, on passe à autre chose. Limite, enfin, on refuse tout instant de répit qui ferait qu'on intellectualise cette chose-là. C'est-à-dire, il y a un véritable rejet de la chose, quoi.
C'est irrémédiable ou...
Oui, aujourd'hui, oui.
Et votre scolarité, vous l'avez faite où, alors ?
J'ai fait ma scolarité d'abord dans le 93, dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. Par la suite, j'ai été au collège dans un internat qui proposait des accompagnements pour les personnes en situation de cécité et en situation de malvoyance.
C'est l'Institut pour les jeunes aveugles.
Exactement. Et en seconde, j'étais dans un lycée du 15e arrondissement où je recevais qu'un accompagnement extérieur.
Et ça, c'était un choix de votre part ?
C'était un choix de ma part parce que... Il y a un moment où on a envie de véritablement être dans des conditions qui ressembleraient plus à un jeune qui serait valide, en espérant avoir des perspectives plus élargies. Moi, à ce moment-là, j'habitais à Veltaneuse. C'est à côté de Saint-Denis et Épinay-sur-Seine.
Donc vous faisiez le trajet tous les matins.
C'est ça.
C'est loin quand même.
Mais il fallait être... c'est loin, mais bon, c'était du 5h45 tous les jours, mais bon, il a fallu s'adapter. Je me débrouillais avec le tramway, le métro et tout ce qui s'en suivait.
Mais vous saviez que vous vouliez faire des longues études ou...
Il y a la volonté. Après, il y a des choses comme toutes les personnes qui sont originaires d'un quartier. Les longues études, on n'y pense vraiment pas toujours. En tout cas, je savais que je voulais assurer quelque chose, quoi. Des études qui me permettent de me mettre en sécurité, d'être indépendant et autonome. Le fait de partir à 5h45 du 93 en y allant, le fait de le refaire tous les jours, c'est qu'il y avait une conscience qu'il fallait le faire.
Et là, par exemple, vous voyez tout noir, tout blanc, tout des ombres.
C'est assez compliqué à expliquer. Je dirais noir. Mais c'est plus compliqué que ça.
C'est juste, je remarque, en fait, vous avez une très grande télévision avec un des jeux vidéo.
Vous jouez quand même pas, on continue d'être dans le dans l'étonnement. Parce que j'ai à la fois des amis qui jouent et moi, enfin, il y a un jeu qui, du coup, c'est un jeu que je jouais déjà lorsque j'avais la vue et que c'est un jeu que je connais assez bien, qui est un jeu de football, pour pouvoir y jouer qu'avec le son.
Ah ouais.
Voilà. Je sais, ouais, le bruit de la passe. Je sais que quand les supporters crient, c'est qu'on est à tel endroit du terrain, du coup, qu'on peut tirer. Donc voilà.
Vous faisiez du foot quand vous étiez petit?
Déjà beaucoup. Toujours. Après, comme je vous ai dit, déjà, j'étais en primaire, j'étais malvoyant. Donc forcément, en tant que malvoyant, c'est quelque chose qui est plus facile parce que bon, on joue au foot plus très facilement avec les autres enfants, avec plus de lenteur, mais bon.
Et après, vous avez continué le foot.
Exactement. Le CC Foot, du coup, qui est arrivé dans ma vie durant mon adolescence et qui est toujours présent.
Donc le CC Foot, c'est vraiment du foot joué par des non-voyants.
C'est joliment dit, je dirais plus que c'est ça. C'est du foot joué par les non-voyants avec un ballon sonore et un certain nombre d'éléments qui sont adaptés du coup à ce moment-là au handicap et qui permettent de pouvoir jouer.
Et là, vous êtes allé assez loin finalement dans la pratique du sport.
Ouais, donc j'ai eu l'occasion du coup à un moment d'être champion de France, notamment avec le club de Saint-Mandé.
Champion de France ?
En 2015. Ah ouais. C'est de très très jolis souvenirs. C'est une certaine sensation. Bien sûr, c'est quelque chose que je continue et j'espère pour les Paralympiques de 2024 à Paris, ce serait beau quand même de pouvoir y participer.
Là, la fin de l'année, vous passez votre master déjà ?
Je passe le master 1. L'idée, c'est de faire le plus de choses possible. D'essayer d'accomplir le plus de choses pour que le monde soit plus attentif, peu importe les difficultés, qu'elles soient du handicap ou d'autres choses. Il faut faire davantage confiance parce que ces personnes ont un véritable potentiel. Mais le problème, c'est que on peut voir dans les statistiques que ça reste beaucoup trop une exception. Il faut mettre des équipes scolaires, des équipes dans les collectivités locales qui fassent encore que ce genre de parcours ne soit pas des exceptions. C'est cette démarche-là aujourd'hui quand je développe une structure associative qui travaille sur le concept de vulgarisation. Ma volonté, c'est de rendre accessible des choses au plus grand nombre, faire en sorte que les choses puissent être accessibles.
Vous avez quel âge déjà ?
Il y a 23 ans.
Ça fait quand même une vie drôlement riche, quoi.
Pleine de rebondissements. Ouais. Pleine de rebondissements, je dirais. Qui réclame de se réinventer.
Parce qu'en plus de votre parcours étudiant, de votre parcours de sportif de haut niveau, vous avez aussi créé une association.
Voilà, on a développé une structure associative, ça fait maintenant quasiment un an, qui s'appelle les Griots Productions, qui s'occupe de, donc comme je disais, vulgariser la science. Et l'idée, c'est de travailler sur des sujets comme de l'histoire, de la sociologie, de la géopolitique, au travers de séries documentaires, de films. Et donc, du coup, dernièrement, là, on a développé notre première web-série documentaire qui parle de l'histoire de l'Afrique avant la colonisation. C'est-à-dire cette chose qui est très très peu connue du grand public, qui reste cantonnée au monde universitaire. On est plus d'une dizaine à travailler autour de ce gros projet. Et je sais que ça peut en étonner beaucoup, comment ça se fait qu'une personne de base non-voyante va du coup diriger une structure qui a l'audiovisuel finalement comme colonne vertébrale. Le défi en soi-même était intéressant, comme dans le sport, toutes les personnes en situation de handicap qui se sont mis à faire du sport parce que ils se sont dit non, je peux le faire, c'est possible, et je pense que tout est une question d'accessibilité. Que ça soit le handicap, que ce soit le rapport avec le quartier, que ce soit le rapport au savoir, vraiment la volonté de faire tomber des barrières, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur.
Et le fait du coup d'avoir ce handicap, pour vous, ça a été finalement une force parce qu'il a fallu décupler, ou c'était effectivement un handicap ? Vous l'avez vécu comment ?
Je sais pas, enfin ça dépend des jours. Il y a des jours où on se dit « Ah c'est bien, parce que ça me fait quand même sortir ma zone de confort et que ça me fait tenter des choses et ça me fait aller dialoguer ». Je pense que l'humain, il est comme ça, l'humain, enfin l'histoire de l'humain finalement, c'est le défi. C'est le défi pour pouvoir trouver des ressources pour répondre à ses besoins, donc... Ça fait partie, mais après il y a d'autres jours où on se dit j'aurais voulu avoir une vie plus lambda, donc franchement ça dépend des jours.
Voilà, pour ce portrait sonore signé Charlotte Perry. Et tous les liens pour découvrir le travail de Yann, tous les liens sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique des vies françaises.